Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
La commémoration des 70 ans de l'appel du 18 juin 40 permet à notre mémoire collective de se plonger de nouveau dans la chanson de gestes gaulienne. Et il est bien légitime d'honorer l'homme qui, par la vertu de quelques mots à la BBC, a relevé le pays de la honte de la débâcle du printemps 40. Et il est ainsi entré dans l'histoire par un acte fondateur qui est de dire non. Pierre Mazaud, de l'Académie des sciences morales et politiques et président de la Fondation Charles de Gaulle, évoque pour nous le 17 juin, la veille du jour où le général de Gaulle va rompre officiellement les amarres. Il évoque aussi la nuit du 17 au 18 juin. Bonjour Pierre Mazaud.
Bonjour.
Nous serions bien présomptueux de présenter avec assurance les états d'âme profonds et la lutte intime que de Gaulle a vécue pendant ces heures avant de passer le Rubicon, mais ses mémoires de guerre, Geoffroy de Courcelles, son aide de camp, fidèle témoin de tous les instants, nous ont renseigné avec précision sur les aspects matériels, c'est-à-dire transport, emploi du temps, avion, les aspects psychologiques aussi, et même, pourquoi pas, les aspects spirituels de cette page de l'histoire de France. Quelles sont les raisons profondes qui ont incité Charles de Gaulle à dire non, mais surtout, que s'est-il passé les 16 et 17 juin?
Lisant les œuvres du général de Gaulle, notamment les mémoires de guerre, et le premier volume qui s'appelle L'Appel, vous me demandez de rappeler ce qui s'est passé le 17 juin. Je me permettrai juste d'un seul mot de dire que le 17 mai, le jour même ou le matin même de la bataille de Montcornet sur la Somme,
où il était avec
ses chars d'assaut, de Gaulle avait pris la décision de poursuivre le combat, considérant que la guerre avait mal commencé, mais qu'elle devait se poursuivre dans un espace plus large qu'était le monde.
L'Empire colonial, en tout cas.
L'Empire, ça viendra plus tard. Je parle de ce qu'il a écrit. Et l'Empire, il y viendra un peu plus tard. Effectivement, dans une première conversation qu'il aura d'ailleurs à Tours, lorsqu'il était au gouvernement.
Parce qu'il était sous-secrétaire d'État de la Défense nationale et à la guerre depuis le 6 juin,
voilà,
je crois.
C'est ça. Or, si je donne cette date du 17 mai, c'est parce qu'elle est d'un mois avant,
oui,
jour pour jour, et que nous rappelons que la bataille de Montcornet est la seule qui était en réalité gagnée pendant ce conflit de 40.
La campagne de France,
voilà,
de ce printemps-là,
France,
oui.
C'est ça. Alors, vous savez que de Gaulle avait donc été, le 16, envoyé par Paul Reynaud à Londres.
Donc, on retourne au 16 juin.
Alors là, je tombe au 16 juin. Car le 16... il va à Londres rencontrer Churchill à la demande de Paul Reynaud, qui était le président du Conseil, et il était chargé de demander à Churchill quand même une aide sur l'aviation. Le 16 juin, c'était déjà très tard, la veille de l'armistice,
enfin,
du moins l'avant-veille, la veille. Mais il l'a fait et ils sont mis en accord, Churchill et lui, pour que dans la poursuite de la guerre, il y ait une nation commune, c'était l'unité anglo-française, une sorte de pacte qui, comme les juristes, et notamment Cassin l'écrira plus tard, ne signifiait pas grand-chose.
Mais excusez-moi, mais le 28 mars 40, il y avait eu un accord disant qu'aucune des deux nations ne pouvait faire une paix séparée.
Ah, ça c'est une chose, ça oui.
Donc attendez, il y avait ce lien.
Il y a un accord, bien sûr, qu'on ne devait pas abandonner la lutte sans l'accord des alliés, qu'il s'agisse d'un pays ou de l'autre. Mais moi, je reviens sur ce que je vous disais maintenant, en vous précisant que donc il va à Londres, où il voit cet accord avec Churchill comme étant susceptible d'amener Paul Reynaud à poursuivre le combat, et là dans l'Empire, et notamment pousser Reynaud à résister aux offensives de Pétain, qui était vice-président du
Conseil. Et de Weygand, peut-être.
Et j'allais ajouter, puisque vous me dites effectivement de Weygand. Le Weygand n'étant pas d'ailleurs au gouvernement, je tiens à le préciser tout de suite, mais il était le chef d'état-major des armées pour ce conflit, ayant, comme vous le savez, puisque vous me refaites parler d'histoire, remplacé Gamelin. Et de Gaulle, fort de cet accord, revient alors là à Bordeaux.
Avec Spears.
Avec Spears. Nous sommes le 16 juin, il atterrit à Bordeaux-Mérignac. Et Bordeaux-Mérignac, il y avait un petit peu de brume. Mais le général n'hésite pas à dire qu'il a tenu à ce que l'avion l'attend le lendemain matin s'il devait s'en servir. Donc, il n'était pas certain de rentrer, car descendu de l'avion, il n'avait pas encore appris qu'il n'était plus membre du gouvernement, puisqu'il y avait eu la démission de Paul Reynaud et que le maréchal Pétain, était donc devenu président du Conseil. Et il apprend ça à sa descente d'avion. Il sait que l'avion l'attend, mais il ne sait pas encore, à mon sens, d'ailleurs il ne l'écrit pas, qu'il va nécessairement retourner à Londres. Toujours est-il qu'il a demandé quand même à l'avion de l'attendre dans la possibilité, dans le fait qu'il choisisse plutôt Londres que le Maroc ou Alger. Il a rencontré Laurent, qui était chef de cabinet de Paul Reynaud, ayant fait connaître à Paul Reynaud le désir du général de poursuivre le conflit en fonction de l'honneur, de la défense de la patrie et de l'espérance. Ce sont des mots qu'on trouvera dans la plupart des conversations que de Gaulle aura à la BBC. Et là, il rencontre simplement, l'histoire le raconte, lui-même le dit, qu'il est salut Pétain, point final, nouveau président du Conseil. Et là, pour moi, c'est là le moment important. De Gaulle va aller dormir pour reprendre l'avion le lendemain matin. Et c'est là où il rencontre de Courcelles et il demande à de Courcelles, est-ce que vous voulez m'accompagner? Et de Courcelles lui dit, s'il y a de la place, oui. Bon, ben on part demain matin. Alors c'est cette nuit pour moi qui est absolument extraordinaire parce qu'il se trouve, il le sait avec rien. Il n'est même plus membre d'un gouvernement.
Oui, il n'a plus de pouvoir.
Il n'a plus aucun pouvoir. Il est général à titre temporaire, mais ça ne signifie pas grand-chose. Et vis-à-vis des Anglais, c'est quand même pas une référence. Et il sait très bien à ce moment-là qu'il ne sera pas l'homme de la situation. Dans la mesure où il pense qu'il y aura quand même des hommes politiques, donc ayant plus
les manœuvres,
de manœuvres, d'autorité que lui-même, qui rejoindront Londres. Mais il a cette nuit où il doit s'interroger sur toutes ces questions, où il règle en demandant désormais à de Courcelles de faire le nécessaire pour que sa femme regagne Brest pour pouvoir prendre un bateau et rejoindre à Londres. Donc il a décidé au début de cette nuit que c'est à Londres qu'il va retourner. D'autant plus qu'il sait qu'il n'y a plus beaucoup de bateaux possibles pour aller en Afrique du Nord ou dans l'Empire. Et il va aller à Londres, comme on le sait, en prenant son avion le matin. Mais cette nuit, pour moi, est quelque chose d'essentiel dans la vie du général. Parce que là, c'est de là qu'il discerne quelle intuition avait cet homme, ce qui allait un petit peu se passer. Et c'est déjà à ce moment qu'il décide, bien qu'ignorant les moyens, j'allais dire audiovisuels, de radio, il décide que de toute façon, il faudra qu'il s'adresse aux Anglais et aux Français après avoir rencontré Churchill.
Et c'est justement peut-être son atout, c'était Churchill, car même si ce n'était pas un personnage influent, de Gaulle, il avait déjà quand même vu Churchill 3-4 fois.
Absolument, vous avez tout à fait raison de le rappeler, et d'autant plus que la veille, à Londres, ils avaient bavardé encore ensemble, que Churchill était très impressionné par l'attitude de De Gaulle qui répondait non à un gouvernement, comme il l'a écrit souvent, d'abandon. Et Churchill voyait en lui un homme qui, pour la France, avait la conduite que lui-même Churchill avait pour l'Angleterre, en réalité. Donc, j'allais dire, ils se sont rencontrés sur le plan intellectuel et des principes, je dirais même des valeurs, sur la nécessité de poursuivre le conflit, quoi, le combat. Tout en sachant les uns et les autres les difficultés, car c'est là que je reviens la nuit du 16 au 17, le général n'avait rien.
Aucun moyen.
Il avait les 100 000 francs de l'époque que lui avait donné Laurent, chef de cabinet de
Qui lui avait aussi permis d'avoir le futur gîte et couvert.
Alors après, Laurent, dans mes frères, de Gaulle, lui a laissé une sorte de studio que Laurent avait à Londres. Mais de Gaulle ira à Londres et c'est dans cette nuit, il a dû penser à tout ça. C'est sans doute à ce moment-là que c'est venu réellement. Il l'avait dit, je le répète, et pour moi cette date est importante, un mois avant, au matin de la bataille de Montcornet. Il savait qu'elle serait battue, mais en réalité, il avait d'ailleurs gagné, puisque c'est la seule bataille qui a été, comme vous le disiez tout à l'heure, dans la bataille de France. Mais il avait dit, écrit page 31 de ses mémoires, c'est tout au début, en disant, de toute façon, il faudra continuer, l'espace dans le monde est vaste. Mais je reviens à cette nuit, pour moi, et j'allais pas dire que cet homme n'a pas dormi, c'est vraisemblable, mais j'imagine se trouver en face d'un trou noir. Il n'a rien. Bon, il y a quelques Français à Londres. Il peut espérer à ce moment-là les avoir à ses côtés pour résister aussi. Et on s'apercevra que ceux qui sont là, notamment l'ambassadeur, etc., sont des gens qui ne seront pas à ses côtés. Je veux dire, c'est une nuit d'angoisse pour le général de Gaulle. Et ce sera l'époque où va débuter en réalité la France libre. Mais moi, ce qui m'a toujours impressionné, donc, c'est cette nuit où il a dû réfléchir à tout ça. Alors, il savait maintenant qu'il allait à Londres, il avait un avion qui l'attendait. Comment ça va se passer? Est-ce que je vais même seulement être reçu aussi bien par Churchill que nos conversations précédentes, comme vous dites, 3 ou 4 fois, et notamment depuis le Conseil des ministres de Tours, où Churchill était venu siéger au sein du Conseil des ministres français?
C'est là où le général Edward Spears a forcément joué un rôle, puisqu'il a été tout de suite auprès de Churchill pour demander.
C'est sûr. Mais je crois que ce qui ne sera pas vrai par la suite, on le sait, entre Spears et de Gaulle, parce que de Gaulle était un personnage qui a pu en agacer quelques-uns, il faut dire les choses comme elles sont, il avait une très forte personnalité. Les relations entre Churchill et de Gaulle, je laisse de côté Roosevelt, mais n'ont pas toujours été des meilleures qui soient. Mais pour des raisons qui se justifient amplement compte tenu de l'attitude du général qui défendait avant tout la France. Et le combat que menait la France à tel point qu'il ira jusqu'à dire « De toute façon, sans la France, les alliés ne gagneraient pas non plus. » Je veux dire, c'est des vues de...
Bon. Oui, mais c'est très bien d'avoir des idées aussi hautes pour pouvoir arriver.
Et c'est comme ça que peu à peu, bon, on connaît la suite. Enfin, il a vu Churchill et Churchill a compris très vite, en tous les cas, que... Les hommes politiques, y compris ceux que connaissait Churchill comme Mandel, c'est des gens qui ne rallieraient pas Londres tout de suite. Et donc il avait le général de Gaulle, donc il a fait avec. Et c'est de là, vous savez, 3 jours après, qu'il va reconnaître le général de Gaulle comme le représentant des Français libres, ce qui amènera le général à dire non seulement « je représente les Français qui sont dans les îles britanniques, mais je représente tous ceux qui voudront bien nous rejoindre ». C'est le début de la France libre en réalité.
Si nous changeons de jour dans la nuit du 17 au 18, je crois qu'il est allé dîner à Londres, chez Jean Monnet, où il y avait René Pleven. Et Jean Monnet était bien d'accord pour résister, mais pas depuis Londres.
Jean Monnet pensait déjà aux États-Unis. Dans la mesure où vous savez que Jean Monnet avait en charge l'importation d'armes qui pouvaient venir des États-Unis, tant qu'ils venaient nécessairement en Angleterre, et dont certaines venaient encore en France.
Oui, l'Angleterre, c'est avant de plateforme, comme toujours, depuis les États-Unis. C'était un peu ça.
Voilà. Mais il y avait donc des liens qu'on connaît bien entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, les îles britanniques. Mais ces liens n'étaient pas encore une liaison commune dans le conflit.
Bien sûr, puisque les États-Unis n'étaient pas...
Pearl Harbor.
Oui, n'étaient pas là.
On attendra le Japon. Enfin, du moins, la déclaration
de guerre... Décembre 41.
Et là, nous sommes 1 an et 6 mois avant. Alors, Churchill, il a eu De Gaulle, donc il a fait avec. Il s'est aperçu, sans doute on va y revenir après l'appel du 18 juin, après les conversations qu'il avait avec Spears. De Gaulle avait vu d'autres personnages, d'ailleurs, le Lord de l'Amirauté, etc. Assurant le Lord de l'Amirauté que jamais la marine française ne serait entre les mains des Allemands parce que ça, Reynaud lui avait promis. Or, on sait bien que le 3 juillet, il y aura Marcel Kébir. Enfin, bon.
Malheureusement, oui.
Donc, Churchill fait avec et lui donne l'autorisation, effectivement, de s'exprimer à la BBC. Or, vous savez, la matinée passée, sur un coin de table, a rédigé son texte. Le général écrivait merveilleusement. Mais enfin, un sujet de cette importance exigeait de la réflexion. Il y a beaucoup de ratures, toujours chez le général. Nous avons à la Fondation de Gaulle beaucoup d'archives personnelles du général, c'est tout assuré, etc. Et puis il a fait son fameux appel qui est le départ de la France libre et qui est une date, je dirais, importante, bien sûr, pour De Gaulle, pour les gaullistes, pour la France, mais c'est une date dans l'histoire de France, à mon avis, car c'est une des grandes dates de toute notre histoire.
Ce ce que je voulais aussi vous demander, c'est que je crois que j'ai lu que le 17 juin, donc avant l'appel, il avait quand même encore essayé de s'adresser à Végan. Il a mis du temps avant, enfin, il a essayé de ne pas rompre totalement avec la politique, la légitimité militaire. Et je crois qu'il avait dit « Me trouve dorénavant sans pouvoir, dois-je poursuivre négociation, me tiens à vos ordres par ambassade et par mission de coopération. » Donc De Gaulle voulait bien faire les premiers pas, mais il ne voulait pas tout à fait être un paria.
Ah mais nous sommes d'accord. Quelques jours après, ça lui passera, notamment quand il apprendra sa condamnation à mort par contumace. Mais il est vrai que De Gaulle a encore espéré.
Oui, et je crois que le 19, il a écrit au jeune, enfin il a contacté le général Catrou, gouverneur de l'Indochine, Nogues.
Pour Nogues, j'en suis
tout à fait certain. C'est pour l'Afrique du Nord, Nogues.
Qui était le résident général au Maroc.
Oui.
Et c'était pour l'Afrique du Nord. Dans la mesure où il y avait une armée en Afrique. Celle avec laquelle le général de Gaulle voulait d'ailleurs poursuivre le combat quand il était encore au gouvernement face au vice-président Pétain et à Végan qui ne voulait pas et qui voulait l'armistice. C'était l'abandon.
Il s'était adressé aussi au général Mitterhauser, je crois, pour le Levant.
Alors, pour le Levant à Mitterhauser. Il essayait en disant « Je suis derrière vous,
si vous venez, mais je serai à vos ordres.
On continue le combat, je suis à vos ordres. »
Voilà.
Voilà exactement. D'autant plus que Nogues, résident général, il s'est rendu compte quand même que, d'autant plus qu'il a dû très vite voir que les hommes politiques ne viendraient pas tout de suite. Vous avez parlé, revenons-y, de Monet et de Pleven. Il a compris que Monet... Mais le général n'a pas été contre Monet à cette époque, dans la mesure où Monet pouvait aller chercher des armes, effectivement, pour ce qui deviendrait demain, après-demain, la France libre. Mais De Gaulle a pensé, a compris que les hommes politiques ne viendraient pas. Il y a eu l'histoire du Massilia, où donc le bateau est arrêté, etc., avec Mendès et les autres. Et c'est là qu'il pense tout de suite aux militaires, en disant, eh bien, alors des militaires, et moi, je suis sous leurs ordres. Et notamment Nogues, il a été alors là très déçu. Par les réponses de Nogues qui lui dit « Je reste dans la légitimité, c'est Pétain, enfin, etc. » Le seul qui viendra, c'est effectivement Catrou. Et lorsque beaucoup plus tard, le général verra Catrou, je suis convaincu que le général pensait que Catrou pourrait prendre la tête de toute cette opération et Catrou lui dit « C'est vous, mon général, le chef des Français, je suis à vos côtés. »
En fait, il était non-conformiste, notre général de Gaulle.
Oui.
Donc, il ne pouvait pas attendre de tous les autres généraux d'être aussi non-conformiste que lui. Parce que quand on voit tout ce qu'il a écrit, on avait bien compris qu'il était déjà un petit peu capable de remettre beaucoup de choses en cause.
Oui, oh, il était, vous avez tout à fait raison, en tous les cas avant la guerre, et ses écrits le démontrent, ses interventions publiques, il était tout à fait... opposé à la tactique de ce qu'on appelle l'état-major, et notamment de Pétain, l'ancien vainqueur de Verdun, qui, avec l'état-major, avait considéré que le nouveau conflit serait un conflit de caractère défensif. D'où la ligne Maginot et tout, quelque chose d'incroyable d'ailleurs de ces vieux militaires, Gamelin, Pétain, Végan et toute l'équipe, qui ne vont même pas continuer la ligne Maginot jusqu'à Dunkerque, considérant qu'elle suffit amplement dans la mesure où jamais les Allemands ne traverseront les Ardennes. Quoi. Or, naturellement, ils sont passés par les Ardennes. Et le général de Gaulle a vu arriver les chars de Guderian. Guderian ayant reconnu à plusieurs reprises que c'était les écrits de Gaulle qui lui avaient fait comprendre.
Inspiré de De Gaulle.
Inspiré de De Gaulle que demain, la guerre serait comme ça. Bon, ils avaient d'ailleurs éprouvé leurs chars, effectivement, quelques semaines avant en Pologne. Enfin bon, et l'aviation. Alors, voilà, moi je trouve que... En réalité, qu'est-ce qu'il nous apprend dans le 18 juin ? Or, le fait qu'il apparaît comme le chef de la France libre, puisque c'est lui qui dit « je continue le combat et je veux du monde, rejoignez-moi ». Il apparaît déjà comme un homme qui sait donc dire non, vous l'avez très bien dit tout à l'heure vous-même, il a passé le Rubicon, il sait comme militaire ce que ça lui en coûte, c'est pour ça qu'il a dû avoir une nuit difficile, parce qu'il a pensé à tout ça, vous y faisiez allusion vous-même. Et puis il dit « l'honneur de la France ». La défense de la patrie, l'espérance, il montre par là même qu'il est fidèle à ses convictions. Et moi, comme gaulliste, gaulliste d'une génération un peu plus tardive, je veux dire que c'est ça, c'est cette... Alors le fait de dire non, qui montre que tout homme politique devrait s'en inspirer encore aujourd'hui, et deuxièmement, d'être fidèle à ses convictions. C'est ce qu'a été le général dès le départ, il a dit non. Il a dit non, soyons très très clairs, dis-moi ce que je pense. Au début, quand il était à Bordeaux, il n'était pas sûr de l'emporter, qu'on gagnerait. Et c'est très vite venu à Londres quand il a senti la volonté de Churchill. les deux hommes se sont rencontrés. On continue. Alors, c'est quand même une époque. Alors, évidemment, le 18 juin cette année, il y aura beaucoup de manifestations. Vous savez que la Fondation de Gaulle, on va avec le président de la République à Londres le matin. On sera au Mont-Valérien l'après-midi et nous faisons pas mal de colloques avec des historiens sur toute cette période. J'ai eu des contacts avec La Monnaie qui sort une pièce de 2 euros, l'effigie du général, enfin, etc. Il y a un certain nombre de manifestations importantes. Et puis j'y ajoute, parce que ça aussi c'est une grande époque, évidemment on s'éloigne du mois de juin, mais c'est le problème de l'Afrique, puisqu'on sait bien que le général, après le drame de Dakar, où dit-on qu'après le drame de Dakar, il a eu des moments de faiblesse, hein, il faut dire ce qu'il y a, puisque certains ont dit qu'il était au bord du suicide.
Oui, il était démoralisé. Oui.
Totalement démoralisé. Surtout qu'il avait peur, effectivement, que les Anglais lui disent « Allez vous faire foutre, oui. Vous nous avez monté dans une opération. » Et quel courage de Churchill de dire aux communes « C'est moi qui ?» Alors, vous savez, partir à Douala, Brazzaville, et puis toute l'épopée du Tchad, etc. Donc, je vais aller fêter tout ça avec la Fondation, effectivement, dans les pays africains. Profitant de ces dates pour l'indépendance, puisque l'indépendance, en réalité, elle est née du discours de Brazzaville. Alors, pour la Fondation, comme pour pas mal de gens qui suivent ça, qui aiment l'histoire, qui aiment leur pays, c'est une année pour nous très importante. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est le 70e anniversaire de l'appel du 18 juin. Mais je ne veux pas dire que ce sera le dernier qui sera souhaité, mais c'est le dernier qui aura un certain retentissement. Parce
y a-t-il encore des compagnons de libération ?
Voilà, j'allais vous dire, il reste 42 compagnons de la libération. Ça ne fait plus beaucoup et ils ne sont plus tout jeunes. Il en est de même de ceux qui m'entourent à la Fondation de Gaulle. C'est des gens qui ont été souvent plus proches de Gaulle qu'un simple collaborateur. Ils ont joué un rôle dans toute cette très belle épopée de notre histoire. Alors, c'est le 70e anniversaire. Cette année, il y a encore ces manifestations, mais le relais, c'est plutôt maintenant à l'éducation nationale, aux enseignants, à rappeler ces dates, un peu comme, vous savez, on s'éloigne, un peu comme on rappelle les grandes dates de l'histoire de France. Mais pour moi, c'est une page tout à fait exceptionnelle. Cet homme qui n'est rien et qui dit non, allons-y. Moi, je trouve ça tout à fait exceptionnel. Alors, vous avez tout à l'heure pour parler d'un problème spirituel, c'est sûr que ça a joué chez le général qui avait un certain nombre de valeurs. Spirituel, je dirais, ce chrétien élevé dans une famille chrétienne du Nord et tout, un engagement signifie un engagement. Et vous l'avez rappelé vous-même tout à l'heure, l'engagement des Français et des Anglais de ne pas se séparer de l'un de l'autre en déposant les armes. De Gaulle a considéré que c'était une violence contre l'honneur de la France et de son engagement. Lui, le maintien.
Que lui, au commencement était le verbe et au commencement était l'action, puisque c'est ce qu'il avait évoqué quand, dans son fil de l'épée, il avait utilisé Goethe, qu'il connaissait par cœur, puisqu'il était germaniste. Oui. Ce qui est aussi toujours très touchant, c'est de voir à quel point il talonnait le gouvernement de Pétain. Pétain est président du Conseil le 16. Il parle pour demander l'armistice le 17. De Gaulle fait son appel le 18. Le 22, l'armistice est signé. Et le 22 au soir, De Gaulle fait son second discours. Pour conclure sur ce personnage emblématique, héroïque. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Pierre Mazeaud ?
Je dirais que le gaullisme, en réalité, n'est pas mort. Loin de là, car en réalité, le gaullisme, c'est une transmission de valeurs. Or, des valeurs qui touchent la nécessité de servir son pays et donc de l'aimer.
Qui ne se ménage pas et qui est un champion inflexible.
Absolument, voilà.
Merci,
un très beau terme.
Merci, Pierre.
Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
La voix drôle de voix, profond et saccadé, la voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées, la voix qui racontait une France à ton goût, moi. Quand elle va se taire, je te parie sans sous, ouais. Le nom drôle de nom, écrit sur l'ouragan, quatre murs de l'horizon, claquant comme un slogan, ce nom qui te parlait de chez toi, de chez nous, ouais, ce nom qui chante clair, je te parie sans sou, que tu le regretteras. Regrettera beaucoup. longue vie que ton fils apprendra pour la leçon du mercredi et qu'il ne saura pas cette vie qui ne fut pas toujours à ton goût. Moi, quand elle ne sera plus, je te parie 100 sous. Ouais, c'est vraiment très dommage. Toi qui es mon ami, on n'est plus du même rivage. Ah, quand on parle de lui, cet homme légendaire au milieu des vivants. Ouais, le jour où on l'enterre, tiens, je te parie 100 francs que tu le regretteras, tu le regretteras.